Chapitre 30, Contrefaçon des dons de l'esprit. Un esprit de fanatisme s'est emparé de certains observateurs du sabbat. Ils n'ont que peu puisé à la source de la vérité, et ils ne sont pas vraiment dans l'esprit du message du troisième ange. On ne peut rien faire pour ces gens jusqu'à ce qu'ils aient abandonné leurs idées fanatiques. Certains d'entre eux ont ce qu'ils appellent des dons et disent qu'ils les ont reçus du Seigneur. Ils prononcent des mots incompréhensibles, qu'ils appellent une langue étrangère, mais qui est étrangère non seulement aux hommes, mais aussi au Seigneur. De tels dons sont d'origine humaine et d'inspiration satanique. Le fanatisme, l'excitation malsaine, le faux parler en langue et d'autres exercices bruyants ont été considérés comme des dons envoyés par Dieu à l'Église. Il y a là une grave erreur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fanatisme et le bruit ont été tenus pour des preuves de la foi. Mais il ne s'agit pas là de bons fruits. Certaines personnes ne sont pas satisfaites d'une réunion si un vague sentiment de puissance et de bonheur ne s'empare d'elles. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour arriver à un certain degré d'excitation. Mais l'influence de telles réunions n'est pas bienfaisante. Quand le sentiment de bien-être a disparu, on se trouve à un niveau moins élevé qu'avant la réunion, car ce bonheur ne vient pas de bonne source. Les réunions qui permettent le plus de progrès spirituel sont celles que caractérise la solennité, dans lesquelles on cherche de tout son cœur à se connaître soi-même et à se placer au pied du Maître dans un esprit de ferveur et de profonde humilité. Il y a des esprits agités qui refusent de se discipliner. Ils pensent qu'ils perdraient une part de leur liberté s'ils abandonnaient leur façon de voir pour se soumettre au jugement de personnes plus expérimentées. L'œuvre de Dieu ne progressera pas sans une disposition à se soumettre à une discipline si l'on n'exclut pas des assemblées l'esprit de fanatisme, de hardiesse et de désordre. Les impressions et les sentiments ne sont pas une preuve que le Seigneur nous dirige. Satan peut, si l'on y prend garde, produire en nous des sentiments et des impressions. Ce ne sont pas des guides sûrs. Tous devraient se familiariser avec les différents points de la doctrine et se mettre à rechercher sérieusement comment ils peuvent honorer leur nom de chrétien et porter du fruit à la gloire de Dieu. Il ne faut pas adopter une ligne de conduite qui nous rende antipathiques aux incroyants. Soyons pleins de modestie, ayons un langage châtié et une vie sans reproche. Évitons la vulgarité, la hardiesse, la raillerie. Le fait de parler et de prier avec talent dans une réunion n'est pas une preuve que la grâce de Dieu habite dans les cœurs, si ces mêmes personnes parlent et agissent ensuite d'une manière grossière et insouciante hors des réunions. De telles personnes sont de bien mauvais représentants de notre foi, et déshonorent la cause de Dieu. Il y a une étrange confusion d'opinions chez les adventistes d'eux. Certains ne sont pas en harmonie avec le corps de l'Église, et aussi longtemps qu'ils occuperont leur position actuelle, ils seront exposés aux tentations de Satan, et affligés d'un esprit de fanatisme et d'erreur. Il en est dont les opinions fantaisistes les empêchent d'apercevoir des vérités vitales, car leurs fantaisies prennent la place de ces vérités. Le comportement et l'esprit de ces gens amènent certaines personnes sensées, et qui ne sont pas des nôtres à s'opposer au sabbat. Il vaudrait mieux pour le progrès et le succès du message du troisième ange que ces fanatiques quittent l'Église. Ceux qui prêchent la parole devraient être des ouvriers accomplis, et présenter la vérité dans sa pureté quoique avec simplicité. Qu'ils nourrissent le troupeau avec des aliments spirituels soigneusement passés au crible. Il y a des astres errants qui prétendent être des prédicateurs envoyés de Dieu et prêchent le sabbat de lieu en lieu. Mais ils mélangent la vérité à l'erreur. Leur prédication est un amalgame d'opinions discordantes. Satan les a suscités pour décourager les incroyants intelligents et sensibles qui viennent les écouter. Ces prédicateurs abondent sur la question des dons spirituels. Ils manifestent des sentiments violents, émettent des sons inintelligibles qu'ils appellent le don des langues, et une certaine classe de personnes paraissent enchantées d'aussi étranges démonstrations. Un curieux esprit règne chez ces gens, qui sont prêts à mettre en pièce quiconque les reprendrait sur ce point. Mais l'œuvre de tels prédicateurs n'est pas celle de l'Esprit de Dieu. Certes, ils ont du succès auprès d'une certaine catégorie d'auditeurs, mais cela imposera un travail plus considérable aux serviteurs que Dieu lui-même envoie, qui sont qualifiés pour parler du sabbat et des véritables dons de l'Esprit. Ces prédicateurs-là sont dignes d'être imités. La vérité devrait être présentée de telle manière qu'elle soit attrayante pour un esprit intelligent. On nous considère comme de pauvres gens faibles d'esprit. Combien donc il est important que tous ceux qui enseignent la vérité, tous ceux qui y croient soient transformés à tel point par son influence sanctifiante que leur vie noble et élevée montre à ceux qui ne croient pas comme nous qu'ils nous ont mal jugés. Combien il est important que la cause soit dépouillée de toute excitation fanatique afin que la vérité se montre telle qu'elle est dans sa pureté originelle et son élévation. J'ai vu quelle importance il y avait pour les prédicateurs à cultiver les bonnes manières, à éviter les bizarreries et les excentricités afin de présenter la vérité dans sa pureté et sa clarté. Ce texte me fut rappelé, qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Au verset 16, Paul parle d'une catégorie de personnes qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres, étant incapables d'aucune bonne œuvre. Il exhorte Tite en ces termes, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ces instructions ont été écrites pour tous ceux que Dieu a appelés à prêcher la parole et aussi pour ceux qui les écoutent. La vérité élève. La vérité de Dieu ne dégrade jamais, mais elle élève, affine le goût, sanctifie le jugement et amène à la perfection celui qui la reçoit, le rendant propre à la compagnie des anges purs et saints dans le royaume des cieux. Il y a des gens grossiers, rudes, bizarres, vantards, qui profitent de se faire valoir au détriment de leurs voisins, s'ils le peuvent. Ils ont donc de graves défauts, mais lorsque la vérité a fait impression sur leur cœur, leurs vies sont transformées. L'œuvre de réforme commence immédiatement en eux. La sainte influence de la vérité ennoblira l'homme tout entier. Dans ses rapports avec ses semblables, il se conduira comme un enfant de Dieu, aimera son prochain comme lui-même et agira à l'égard d'autrui comme il voudrait qu'on agisse avec lui. Son langage sera empreint de pureté et d'un caractère si élevé que ceux qui n'ont pas la même foi ne pourront, à juste titre, en dire du mal. Ils ne seront pas rebutés par des manières discourtoises et une conversation déplacée. L'influence sanctifiante de la vérité se fera sentir dans sa famille et la lumière brillera autour de lui de telle sorte qu'en voyant ses bonnes œuvres, on glorifiera Dieu. Dans toute sa vie, il montrera qu'il suit les traces du Christ. La loi de Dieu ne se satisfait de rien de moins que la perfection. Elle exige une obéissance totale. Ne se conformer à ses exigences qu'à moitié n'est d'aucune valeur. Les mondains et les incrédules aiment qu'on soit conséquent avec soi-même, et ils sont fortement ébranlés lorsque les œuvres des enfants de Dieu correspondent à leur foi. Ils reconnaissent alors que Dieu est avec son peuple. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nos paroles et nos actions sont les fruits que nous portons. Beaucoup de gens entendent les enseignements du Christ, mais ne les mettent pas en pratique. Ils font profession de religion et portent de tels fruits que les incroyants se détournent d'eux avec mépris. Ils sont vaniteux, prient et parlent comme des propres justes, attirant l'attention sur eux et énumérant leurs bonnes actions, remerciant Dieu, comme le pharisien, de ne pas ressembler au reste des hommes. Ces gens sont rusés en affaires et font des autres leurs dupes. Ils ne portent pas de bons fruits, et semblent incapables de discerner leur état misérable. Il m'a été montré que le passage suivant s'applique à ceux qui se font de pareilles illusions sur leur compte, ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Telle est la plus grande déception que puisse éprouver un homme, il a cru être dans le bon chemin, alors qu'il se trouvait dans le mauvais. Il a pensé accomplir une grande œuvre sur le plan religieux, mais Jésus déchire à la fin ce manteau de propre justice et lui fait voir la vivante image de ses torts et la laideur de son caractère. Il est trouvé déficient, alors qu'il est à jamais trop tard pour pouvoir changer. Dieu a pourvu au moyen de redresser les erreurs, cependant, si un homme choisit de suivre sa propre opinion, s'il méprise les remèdes que Dieu a prescrits, et qui permettent à la lumière de la vérité de briller à nouveau sur lui, alors il sera dans la situation décrite par les paroles du Seigneur citées plus haut. Dieu invite son peuple à sortir du monde et à rechercher l'unité de foi et de doctrine, réalisant ainsi la prière du Christ en faveur de ses disciples, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient, un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient, un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Esprit inquiet. Il y a de petits groupes de croyants qui pensent que Dieu est seulement avec les minorités infimes, les disséminés, et ils essaient de détruire et de disperser ce que les serviteurs de Dieu construisent. Certains esprits inquiets veulent sans cesse voir et croire de nouvelles choses. Cette tendance se manifeste ça et là. C'est le travail de l'ennemi. Tous prétendent avoir la vérité. Ils se séparent du peuple que Dieu conduit et par lequel il accomplit une grande œuvre. Ces gens expriment sans cesse leur crainte que les adventistes deviennent comme le monde, mais on en trouve rarement deux qui soient du même avis. Ils sont dans la confusion d'esprit et en arrivent à s'abuser à tel point qu'ils pensent que Dieu est avec eux d'une manière toute spéciale. Certains prétendent avoir les dons de l'esprit, mais sous l'influence de ces faux dons, ils tiennent en suspicion ce que Dieu a chargé de diriger son œuvre, et ils essaient d'en attirer d'autres dans leur filet. Le peuple de Dieu qui, selon la parole, s'efforce de vivre dans l'unité et se fonde sur le message du troisième ange, est regardé avec méfiance parce qu'il étend ses cordages et qu'il gagne des âmes à la vérité. Des membres de l'Église sont considérés comme des mondains parce qu'ils ont de l'influence dans le monde et parce que leurs actes font voir qu'ils s'attendent que Dieu accomplisse encore une grande œuvre sur la terre afin de se préparer un peuple pour le retour du Christ. Ces gens inquiets ne savent pas ce qu'ils croient en réalité ni pourquoi ils le croient. Ils étudient sans cesse, sans arriver jamais à la connaissance de la vérité. L'un d'entre eux se lève et proclame des opinions étranges et erronées, prétendant que Dieu l'a envoyé avec une nouvelle lumière que tous doivent reconnaître. Certaines personnes, qui n'ont pas une foi solidement établie, qui ne sont pas attachées au corps de l'Église et qui sont sans cesse ballottées à tout vent de doctrine, se laissent alors emporter. Cette prétendue lumière brille de telle manière que le monde s'en détourne avec haine et mépris. Alors, d'une façon blasphématoire, celui qui est à l'origine de cette erreur se place aux côtés du Christ et proclame que le monde le hait pour la même raison qu'il haïssait le Maître. Un autre se lève encore, prétendant être conduit par Dieu, et défend l'hérésie de la non-résurrection des méchants, ce qui est une des pièces maîtresses de l'erreur satanique. Un autre professe des opinions erronées en ce qui concerne la vie future. Désirant tous une entière liberté, ils agissent indépendamment les uns des autres, et cependant proclament que Dieu est particulièrement à l'œuvre parmi eux. Conducteurs présomptueux. Certains se réjouissent et exultent de ce qu'ils ont des dons alors que d'autres n'en ont pas. Puisse Dieu délivrer son peuple de pareils dons. À quoi leur servent-ils? Sont-ils amenés à l'unité de la foi par l'exercice de ces dons? Arrive-t-il à convaincre les incroyants que Dieu est avec eux? Quand ces gens, qui ont chacun leurs opinions particulières, viennent à s'assembler, il se produit une excitation considérable et ils parlent en langue. Les incroyants disent alors. Ces gens ne sont pas saints d'esprit, ils se laissent emporter à une excitation de mauvais aloi, et nous nous rendons compte qu'ils ne possèdent pas la vérité. Ainsi, de telles personnes se tiennent sur la voie des pécheurs, car leur influence empêche quelques-uns d'accepter le sabbat. Aussi, seront-elles rétribuées selon leurs œuvres. Plaise à Dieu qu'elles se réforment ou qu'elles abandonnent le sabbat. Elles n'empêcheraient pas ainsi les autres d'accepter la vérité. Dieu a appelé des hommes qui ont peiné pendant de nombreuses années, toujours prêts à consentir quelques sacrifices, à endurer les privations et les épreuves, afin de faire connaître la vérité au monde. Par leur manière d'agir, ils ont essayé d'écarter l'opprobre que les fanatiques attiraient sur la cause de Dieu. Ils ont fait face à toutes sortes d'oppositions, travaillé nuit et jour à l'apologie de notre foi, afin de faire resplendir la lumière de la vérité dans toute sa clarté et de l'exposer d'une manière cohérente pour qu'elle puisse triompher de toute opposition. Un labeur incessant et les épreuves morales qu'ils ont subies à cause de leur attachement à l'œuvre de Dieu ont usé leur corps, et ont prématurément parsemé leur tête de cheveux blancs. Mais ce n'est pas en vain. Dieu a entendu leurs prières ferventes et angoissées lorsqu'ils recherchaient la vérité et qu'ils désiraient la faire briller devant leurs semblables. Il a vu leurs sacrifices et il les récompensera selon leurs œuvres. D'un autre côté, il en est qui n'ont pas peiné en sondant la parole, mais qui ont cru à quelques vérités comme celle du sabbat. Le travail est étouffé, et toute la gratitude qu'ils ont manifestée pour ce qui ne leur avait rien coûté, mais qui avait tant coûté aux autres, c'est de se soulever comme Corée, Dathan et Abiram contre ceux à qui Dieu a confié la charge de son œuvre. Ils disent, « C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Ces gens, ignorant la gratitude, ne céderont pas aux arguments, mais leur esprit d'entêtement les conduira à la ruine. » Dieu a béni son peuple qui a marché de l'avant au fur et à mesure que la Providence lui ouvrait le chemin. De toutes les classes de la société, il a appelé des hommes et des femmes qui se sont rencontrés sur le terrain de la vérité. Des incrédules ont été convaincus que Dieu était avec son peuple. Ils ont humilié leur cœur et obéi à la parole. L'œuvre de Dieu va de l'avant avec régularité. Toutefois, malgré les preuves que le Seigneur conduit son peuple, il y a des gens, et il y en aura toujours, qui observent le sabbat, mais qui veulent agir indépendamment du corps de l'Église et choisir eux-mêmes leurs croyances et leurs méthodes d'action. Leurs opinions confuses prouvent que Dieu n'est pas avec eux. Malheureusement, le sabbat et leurs erreurs sont placés par le monde sur le même niveau, et rejetés également. Dieu est courroucé contre ceux qui choisissent une ligne de conduite qui les fait haïr du monde. Si un chrétien est détesté à cause de ses bonnes œuvres et parce qu'il suit le Christ, il aura sa récompense. Mais s'il se fait haïr par une ligne de conduite erronée, par ses mœurs grossières, parce que la vérité est pour lui une occasion de querelle avec ses voisins, s'il agit de telle sorte que le sabbat est une source d'ennui pour eux, alors cet homme est une pierre d'achoppement pour le pécheur, un opprobre pour la vérité. S'il ne se repent pas, il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer. Il ne faudrait pas fournir l'occasion aux incroyants de nous reprocher notre foi. On nous considère comme des gens bizarres, mais nous ne devons pas nous singulariser plus que celle-ci ne nous le demande. Il y a dans la nature humaine une tendance à aller d'un extrême à l'autre. Beaucoup de gens sont fanatiques. Ils sont consumés par un zèle enflammé, qui est pris à tort pour de la piété. Mais on reconnaît à son caractère le vrai disciple du Christ. A-t-il la douceur de Jésus ? A-t-il son humilité et sa bonté ? Le temple de l'âme est-il vidé de tout orgueil, de toute suffisance, de tout égoïsme, de toute disposition à blâmer sans cesse ? Sinon, il ne sait pas de quel esprit il est animé. Il ne se rend pas compte que le vrai christianisme consiste à porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. D'autres vont à un autre extrême en se conformant au monde. Il n'y a pas de ligne de séparation entre eux et les mondains. Si dans le premier cas les hommes sont détournés de la vérité par ceux qui les condamnent avec dureté, dans le second, ils sont amenés à conclure que le chrétien n'a pas de principe solide et que son caractère ou son cœur n'est pas changé. Le Christ a pourtant dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur désire que son peuple se serve de sa raison au lieu de la mettre de côté et de se laisser guider par ses impressions. Son œuvre peut être comprise par tous ses enfants. Ses enseignements sont tels qu'ils se recommandent eux-mêmes aux esprits intelligents. Ils sont de nature à élever l'esprit. La puissance de Dieu ne se manifeste pas en toute occasion, mais seulement lorsque l'homme en a besoin. Lorsque ceux qui se sont laissés aller à de faux exercices religieux sont convaincus de leur erreur, Satan en prend avantage pour tenir cette erreur constamment devant leurs yeux, afin qu'ils soient effrayés de tout exercice spirituel. Ainsi, l'adversaire cherche à détruire leur foi dans la vraie piété. Parce qu'ils se sont trompés une fois, ils craignent de se livrer à la prière fervente pour demander à Dieu une aide toute spéciale et la victoire. Mais ils ne doivent pas laisser Satan gagner du terrain et les entraîner à un froid formalisme et à la méfiance. Qu'ils se souviennent que le solide fondement de Dieu reste debout. Tout homme est menteur, mais Dieu est véridique. Leur seule sauvegarde est de mettre leurs pieds sur un solide fondement, de comprendre le message du troisième ange, d'apprécier la vérité à sa juste valeur, de l'aimer et de lui obéir.